тело, я жру тебя.
Bonjour, bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3 pour la nouvelle émission « Deux gars qui critiquent leur fin de semaine », une émission où on va parler de culture, d'entertainment, de jeux vidéo, séries, films. Je suis accompagné d'Anthony La Jeunesse. Bonjour Anthony.
Salut Pierre-Olivier, ça va bien?
Oui, toi?
Très bien.
Donc, pour cette émission, nous allons parler de ce que nous avons fait pendant nos vacances de Noël, puis après, pour la semaine prochaine, on va parler de nos fins de semaine, quel livre, quel film qu'on a écouté. Toi, Anthony, cet hiver, avant que les cinémas ferment, t'as été voir un film très attendu. Peux-tu m'en parler un peu plus?
Oui, je suis un des chanceux qui a eu la chance d'aller voir Spider-Man, le nouveau Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Parce qu'on le sait, les cinémas ont fermé, fait que le film était à l'affiche, je te dirais, 4 jours, 5 jours max.
Ouais, moi j'ai pas eu le temps de le voir, justement.
Exact, t'es pas le seul. Fait que je vais vous dire mon opinion sur ce film. Premièrement, l'histoire, C'est, en fait, le film commence tout de suite à la fin du 2, donc tout le monde sait l'identité de Spider-Man. Et donc, Peter Parker décide, il va appeler Doctor Strange, son nouvel ami. Pour les deux, en fait, il demande que tout le monde oublie son identité, mais ça se passe pas bien. Et comme j'imagine, tu as dû le voir dans l'annonce, le sort se passe pas bien, donc il y a plusieurs méchants des autres univers, des derniers Spider-Man qui débarquent. Et que là, évidemment, Spider-Man, il doit s'occuper de ça. Donc, c'est ça l'histoire en gros. C'est une histoire assez simple, mais très efficace, honnêtement. Là, le film n'a vraiment aucun temps mort. La première partie, c'est un peu un classique MCU movie, le MCU Marvel Cinematic Universe, pour mettre les gens en contexte. Donc, c'est un petit film d'aventure, c'est une comédie, puis il y a de l'action. Puis c'est vraiment à la deuxième partie du film que le film part, si je peux dire. Mm-hmm. C'est dur, en fait, à parler sans rien divulgâcher.
Oui, même moi, je me suis fait spoiler le film sur TikTok.
Ben, c'est ça, j'ai exactement. TikTok, Instagram, c'est incroyable. Moi, j'ai en fait, même avant de voir le film, parce qu'il y avait des places qui sortaient, par exemple, le 15 décembre, moi, j'étais le 17, je me suis enlevé des réseaux sociaux, ben, je voulais rien savoir. Les spoilers étaient partout. Fait que, bref, en tout cas, si vous n'êtes pas fait spoiler depuis un mois, ben bravo à vous. Mais c'est ça, la deuxième partie... comment elle est faite, ça m'a vraiment surpris de la part de Marvel, en fait. Il y a beaucoup de revirements de situation, il y a beaucoup de surprises. Puis, pour une rare... Moi, une critique que j'ai déjà à faire sur les films de Marvel, je trouve que c'est toujours des petites comédies légères maintenant, mais Spider-Man No Way Home, honnêtement, la deuxième partie, comme je dis, ils ont réussi à sortir de ce procédé-là, si je peux dire, puis ils sont allés dans de quoi de différent, puis il y a des émotions. Tu sais, je me suis surpris, j'ai les petites larmes.
Tu as eu des petites larmes à la fin pendant le film?
Dans le milieu, à la fin. Je veux rien dire, mais en tout cas, c'est par rapport à ça, le gros thumbs up au film.
Est-ce qu'il va y avoir une suite selon toi ou est-ce que c'est...
Le film finit en conclusion. Là. Le film finit vraiment que... Le film aurait pu finir là et on aurait pu revoir...
Est-ce que ça va faire comme le premier Spider-Man où il va juste avoir trois films ou il va y avoir encore un autre film avec Tom Holland?
Ben, en fait, Tom Holland il a dit que... Lui, s'il était satisfait si ça finissait comme ça. Puis il est content de la fin de son personnage. Par contre, tu sais, le film, il est rendu avec 1,6 milliard d'argent au box-office. Fait que je pense pas que Sony va abandonner son personnage comme ça. Puis ils ont effectivement dit qu'il y avait trois films en préparation. Okay. Donc non, Tom Holland ne s'en sortira pas. Et on va le revoir jouer Spider-Man. Mais s'il y en avait plus de films avec Tom Holland, ça aurait bien terminé. Ça aurait été une belle conclusion. Là.
OK.
C'est un film que je conseille. J'ai pas été déçu, puis mes attentes étaient assez hautes. J'ai hâte de le revoir. Par contre, il faut que je le revoie pour me faire un avis à 100%. Puis c'est un film divertissant, honnêtement, puis un film qui fait l'unanimité. Là. J'ai rarement... Pour les gens qui l'ont vu, en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ce film-là.
Je pense que c'est le film qui a fait plus d'argent depuis la pandémie, ça se peut-tu, cause que les cinémas ont tout fermé?
C'est exact. C'est le premier film là, qui a atteint le milliard de dollars au box-office depuis le début de la pandémie. Même que hier, officiellement, il est devenu le quatrième film avec le plus d'argent aux États-Unis par rapport au box-office. Il a dépassé Black Panther, qui était en cinquième position. Fait que maintenant, devant lui, il y a Star Wars 7, lui qui est...
Mais oui, oui.
2015, là, Réveil de la Force, Avatar et Endgame. Fait que,
okay.
Donc, c'est okay. Ça, c'est ce qui est ça. C'est ça pour Spider-Man. Toi, Pierre-Olivier, je pense que t'as pas écouté Spider-Man, mais par contre, t'as lu un livre.
Exactement, un livre. Une BD, on pourrait dire. Le nom de la BD s'appelle René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Ça parle de René Lévesque, effectivement.
je suis surpris.
Ben c'est ça, dans le fond, c'est fait, l'éditeur, c'est moi le graphique, fait par Marc Tessier, BDiste à l'Université de Montréal. C'est vraiment une BD où on part de la carrière de René Lévesque en 1944, quand il y a 22 ans, et on se rend jusqu'à la fin, jusqu'à son décès en 1987. C'est une BD d'environ 250 pages. Il n'y a pas beaucoup de texte, ça se lit vraiment rapidement. C'est un peu un des défauts, je dirais, parce que il y a des chapitres, comme par exemple, on commence au début, sa carrière, la BD commence quand il est journaliste à Radio-Canada et où il va dans les camps nazis, puis il va voir les... Les morts, les cadavres.
Ouais.
Je pense qu'on se rappelle de ce qui s'est passé. Puis c'est juste une quinzaine de pages. Beaucoup de chapitres, c'est 10-15 pages. Fait qu'on... Il y a pas... Je trouve qu'il manque d'informations, de contexte, de mise en situation.
Le premier chapitre, c'est ce que tu viens de décrire, dans le fond? Tu commences avec quand il est journaliste, puis il s'en va...
Exactement, en 1944, il est journaliste, puis il va sur les camps, puis il voit les cadavres. Mais il y a aussi, en plus de ça, il va faire la guerre de Corée, il va avoir les grades de réalisateur. Dans le fond, sa carrière journalistique, c'est environ 60 pages dans la BD.
OK, quand même.
Ensuite de ça, c'est toute sa carrière politique. Fait que les 200 prochaines pages, on parle de son début au Parti libéral. J'ai appris beaucoup de choses sur René. Je pense que toi, tu sais c'est qui René, mais...
Je sais la base.
La base est vraiment basse. C'est ça. Puis je dirais aussi, je savais que tu étais le fondateur du Parti québécois, mais... À peu près ça. Mais j'ai appris beaucoup de choses, comme c'est pas mal grâce à lui qu'on a nationalisé l'hydroélectricité, Hydro-Québec. Avant, c'était les compagnies privées, puis plus Hydro-Québec, mais c'est...
Ben, tu vois-tu, je savais qu'il avait joué un rôle dans Hydro-Québec, mais j'en savais pas plus.
Ben, c'est ça, dans le fond, sur quand il était au Parti libéral, il y a eu le mandat des ressources du territoire, puis il a réussi à convaincre le chef libéral... Je me rappelle plus de son nom, mais de nationaliser toute l'électricité. Ensuite de tout ça, on voit partir le Parti québécois. Et bien évidemment, sa victoire aux élections. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de chapitres qui sont trop courts pour... La complexité des choses, comme la nuit des longs couteaux, est-ce que ça dit de quoi?
Non, mais de ce que je crois que tu dis, c'est comme s'ils prennent trop de temps pour un passage qui est plus ou moins important ou moins intéressant, puis quelque chose qui va être plus intéressant, ils passent pas.
C'est ça. Comme, en plus, quelque chose que j'ai bien aimé, mais en même temps, c'est aussi un petit défaut, c'est qu'il y a 13 dessinateurs, donc un pour chaque chapitre.
OK.
Fait qu'au début des... Au début des chapitres, c'est vraiment des courts chapitres, 10 pages environ. Fait au début, je me demandais c'était qui René Lévesque à chaque fois. Il fallait que je le spot.
Tellement que le dessin est différent. Là.
Ben, c'est des différents styles. Fait qu'il fallait que je le cherche tout le temps. Je dis OK, c'est lui. Puis, fait que c'était une qualité, vu que ça rechangeait. Mais en même temps, c'était un défaut parce que moi, René Lévesque, je le connaissais jusqu'à. J'ai un visage de lui quand il a 60 ans.
C'est ça, on a tous vu des photos de lui souvent quand il était jeune.
Mais quand il était jeune. Mais mon truc, c'était je potais le gars qui fumait tout le temps. J'étais comme, c'est lui.
Il y a un petit gars de 10 ans, une cigarette. Ah oui, c'est lui.
Puis, non, c'est ça. Puis, comme vu que les chapitres étaient assez courts, comme pour expliquer la nuit des longs couteaux, j'ai eu de la difficulté à comprendre. Je sais, le contexte était que tous les premiers ministres. Des différentes provinces du Canada s'avaient rencontrés pendant la nuit pour changer la Constitution canadienne. Puis, t'assimiles tellement d'informations en 20 pages que c'est un peu trop dur. Puis une page de BD, c'est pas une page de livre d'un roman. Donc.
Non, puis c'est-tu beaucoup plus images, dessins ou ils vont plus avec des petites bulles, avec des paroles ou c'est équilibré, je dirais? Là, je la regarde, puis ça a l'air très beau visuellement, honnêtement. Ça a l'air vraiment joli, là. Mais par rapport ratio...
Je dirais que c'est une BD... ordinaire. Okay,
Je me demandais si c'était vraiment... Tu avais des parties que deux pages, c'était juste une image, mais non, ça a vraiment l'air des carrés
ben,
avec
quelques rares fois, mais... Okay. Je dirais que tout... c'est normal pour une BD. Puis que... Dans le fond, moi, j'ai rencontré Marc Tessier, l'auteur de la BD en décembre dernier.
OK, et... ça par un add-on ou pour...
Non, pour un travail en télévision.
OK.
Pour notre cours de télévision. Et comme il me dit, les paroles que René dit, c'est ses vraies paroles. Il y a pas, c'est okay. pas une histoire fictive. C'est vraiment, il a essayé le plus possible d'aller chercher ses vraies paroles, des vrais témoins, les paroles de...
C'est une bibliographie vraiment là, accurate, là, si je peux dire.
C'est lui, c'est vraiment René Lévesque qui parle. C'est pas Marc Tessier qui parle pour René Lévesque.
OK.
Donc, je dirais que c'est... pour moi, j'ai quand même adoré. J'ai appris beaucoup de choses. Mais il y a quelques fois que, comme le chapitre de La nuit des longs couteaux, j'ai eu beaucoup de difficultés vu que c'était quand même assez court pour un sujet assez complexe.
Ouais, ouais.
Mais si tu veux en apprendre sur René Lévesque, c'est quelque chose que je conseille. C'est vraiment léger, puis ça se lit vraiment vite, 250 pages. Une fin de semaine, ça se fait bien. Là.
Exact, 250 pages, tu fais crime, c'est beaucoup, mais c'est une 250 pages de bande dessinée et non d'un roman, par exemple. C'est une BD que tu conseilles, je comprends bien.
Oui, oui exactement. Je conseille, si vous savez déjà un peu René Lévesque, puis je suis pas un expert de René Lévesque, mais probablement que vous allez en apprendre, même si vous le connaissiez, si vous êtes de l'époque de mon grand-père, plus peut-être, qui a connu le René Lévesque, je suis sûr que vous allez en apprendre davantage dessus.
Super. Donc, on va enchaîner avec... en fait, la troisième 10 minutes de notre émission, souvent, ce qu'on va faire, on va faire des périodes d'actualité avec vraiment ce que ça peut toucher un livre, un jeu vidéo, un film, une série. Et hier, il s'est passé quelque chose dans les jeux vidéo. Pierre-Olivier va nous en parler, ça concerne Microsoft.
Oui, une bombe. On pourrait dire que Microsoft a juste lâché.
C'est vrai que c'était inattendu. Hein? En tout cas, moi, honnêtement, j'avais pas vu ça venir puis j'avais pas lu là-dessus, pas du tout.
Oui, j'étais... Je dirais que depuis le Game Pass, je t'en avais déjà parlé un peu.
En fait, disons la nouvelle. On l'a pas dit encore.
Oui. Microsoft a racheté Activision Blizzard, donc une compagnie... c'est la cinquième compagnie de jeux vidéo la plus grosse en termes de chiffre d'affaires, si je me trompe pas, pour la modique somme de 68 milliards de dollars US. Un petit 68 milliards
c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup.
Ça sort dans un coin de chez vous. Ça fait que c'est la plus grosse transaction aux jeux vidéo depuis...
Probablement.
Bon, c'est du monde. Mais avant, Take-Two, si je me trompe pas, l'année passée, ou il y a 2 ans, les papas de GTA avaient dépensé 12 milliards de dollars. C'était ça la plus grosse transaction. Là, on passe de 12 à 68 milliards. Fait que
c'est fou. Pour vrai, moi, le dernier montant que je me rappelle d'un gros montant comme ça pour une transaction, c'était quand Disney a acheté Lucasfilm à George Lucas, Star Wars. Puis c'était 4 milliards. Puis je me rappelle, j'ai vu ça, j'ai capoté. Tout le monde, c'était comme la grosse vente, puis là, on parle de 68,7 milliards.
Mais c'est sûr que Microsoft, mettons qu'ils ont de l'argent. Là. Alors, Disney, Microsoft...
Ouais, c'est ça aussi qu'on se rend compte que des compagnies comme ça, ça a de l'argent.
Puis pour les gens, mettons, qui ne savent pas c'est qui Activision Blizzard, ils possèdent les licences comme Call of Duty. Déjà là, Call of Duty, c'est une très grosse licence qui est...
Ouais,
les deux dernières années, les deux plus jeux les plus vendus, ça a été des Call of Duty aux États-Unis.
Exact, je suis pas étonné de ça.
Overwatch.
C'est un jeu multijoueur, je crois.
Compétitif multijoueur, un FPS.
OK, ouais, c'est ça, un première personne, dans le fond.
Oui, c'est ça.
OK.
World of Warcraft.
Oui.
Candy Crush.
Candy Crush?
Oui.
C'est Microsoft qui a Candy Crush?
C'était Activision,
je veux dire, ouais.
Maintenant, c'est avec Microsoft.
Ah, ouais?
Ouais. Puis bien d'autres licences, Diablo, etc. Mais faut dire que la transaction n'est pas encore faite, mais Microsoft est tellement confiant qu'ils ont promis 3 milliards de dollars à Activision si la transaction ne se faisait pas.
Okay.
À cause que faut que... c'est le gouvernement américain qui doit décider si c'est un monopole ou non. Puis Microsoft est confiant là-dessus.
Que ça va être accepté, ouais.
Puis avec cet achat, Microsoft devient la troisième plus grosse compagnie de jeux vidéo. En première position, il y a Sony. La deuxième, si je me trompe pas, c'est Take-Two.
Je peux pas...
Je me rappelle.
C'est-tu Nintendo, à quelque part, peut-être?
Nintendo, je crois qu'ils sont quatrième.
OK.
Mais tu sais, c'est Sony, Microsoft en troisième, certain. Et si je me trompe pas, Nintendo, puis... Honnêtement, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, s'il va y avoir des exclusivités.
Ouais, c'est ça, mais j'ai hâte vraiment, de voir.
Ça fait vraiment peur. En ce moment, il y a une pénurie de PlayStation 5 qui sont pas trouvables. Ça pourrait... Il y a même du monde qui s'ils voulaient s'acheter une PS5 puis ils veulent jouer à COD, ils sont comme « Oh,
c'est que j'achète. » Call of Duty, j'ai bien hâte de voir. Parce que, comme tu l'as dit, c'est le jeu le plus vendu quasiment à chaque année, puis ça fait longtemps. Mais tu sais, les gens, ça fait longtemps que depuis, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, 2010, mais d'après moi, je suis proche, là, qu'il est disponible sur Xbox et disponible sur le PlayStation. Mmh. Si Call of Duty devient juste un Xbox exclusif, ça va être...
Ça fera mal à Sony,
oui,
là.
Effectivement.
En plus... Du service Game Pass, la librairie de jeux vidéo à...
Ça, c'est sur le Xbox? Ça,
exactement, ça, Xbox Game Pass. C'est comme un peu Netflix. S'ils mettent ça là-dessus, leur catalogue, les jeux d'Activision Blizzard sur le catalogue Game Pass, ça va vraiment... ça va détruire PlayStation.
Ben, ça, Game Pass, je suis un PlayStation, moi, je suis pas un Xbox. Ce que je comprends, c'est vraiment ils offrent les jeux... Pas gratuitement, mais à prix réduit.
C'est comme par mois. Tu payes.
C'est un abonnement. Okay, c'est pour ça que tu disais comme Netflix,
exactement.
C'est un abonnement que tu payes.
Puis t'as un catalogue de 400 jeux.
Puis t'as accès aux jeux, dans
exactement.
Le fond.
Exactement.
Tu payes pas le plus pour le jeu.
Non.
Ok, c'est incroyable, ça.
C'est 16$. Ben, il y a différentes versions. Je crois que c'est 16$ pour le Ultimate, la version
puis
premium.
Les nouveaux jeux qui vont sortir, comme il y a eu Halo et Forza récemment, ils sont sur le Game Pass.
Exactement. Les nouveaux jeux, les jeux Xbox Game Studio sortent first day.
Okay.
Day one, souvent. Je sais pas si c'est tous les jeux, mais par exemple, Forza, tu l'as dit, puis Halo, ils ont sorti day one sur Game Pass.
Ça, c'est quelque chose que le PlayStation n'a pas et que je savais pas que c'est un gros plus pour Xbox.
Mais...
Ben, PlayStation, ce qui s'appelle, c'est PlayStation Now. Mais ça coûte, je te dirais que c'est, si je me trompe pas, c'est comme un 50-60 par mois. Je suis peut-être dans le champ. Faudrait que je regarde. Mais c'est, premièrement, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas autant de jeux. Il n'y a pas les nouveaux jeux. Il y a des jeux, mettons. Tu sais, le meilleur jeu en ce moment qu'il y a là-dessus, c'est God of War qui date de 2018.
Mm-hmm.
C'est un bon jeu, mais ça reste que c'est pas un jeu récent, là.
Mais ça va vraiment faire une grosse compétition. Sony va falloir. Sony va devoir rattraper son retard là-dessus parce que Microsoft a vraiment excellé avec son Xbox Game Pass puis ils vont pousser encore le Game Pass dans les prochaines années.
Histoire à suivre.
Puis Anthony, toi, je me souviens, dans notre cours d'écriture en journaliste, on avait fait une critique sur un objet, puis toi, tu avais fait une critique sur Battlefield 2042.
Oui.
Tu l'avais
détruit.
Exactement. Puis qu'est-ce qui se passe là maintenant avec Battlefield?
Écoute, moi personnellement, c'est ça, j'ai joué peut-être un mois. Après, j'ai pas accroché, j'en parlerai si on a le temps. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, quand le jeu est sorti en novembre, le jeu avait 100 000 utilisateurs qui jouaient en même temps, ce qui est un bon chiffre. Et dans les derniers 30 jours, le jeu a une moyenne de 13 000 utilisateurs en même temps. Ce qui n'est pas beaucoup. Puis pour vous faire une comparaison, le Battlefield 5, qui est le dernier jeu de la série qui date de 2018, depuis 2018, il maintient toujours 10 000. Fait que là, le nouveau jeu de Battlefield, qui date de deux mois, est quasiment déjà inférieur à lui. Fait que ça n'a vraiment aucun sens. Puis... c'est un des jeux maintenant qui est le moins bien coté sur Steam. Sur Metacritic, il y a une note de 2.1 sur 10. Même que, ça c'est sorti hier, Steam ont commencé à faire... Steam a une politique de remboursement, c'est après 14 jours. On peut, si le
14
jeu...
14 jours ou 2 heures de jeu.
Ouais, 14 jours après l'achat puis 2 heures de jeu.
Exact.
Sinon, on ne peut plus rembourser. Mais là, ils ont... cette règle-là existe comme plus pour Battlefield, puis ils ont accepté des remboursements.
Ils ont
même
fait comme Cyberpunk 2077.
Exact. C'est un peu le même phénomène. Là. Cyberpunk aussi, ça avait fait un total flop. Donc, si vous cherchez un vidéo pour conclure sur Battlefield, là, si vous cherchez un jeu vidéo en ce moment, achetez pas Battlefield. Vous êtes quasiment mieux d'acheter les anciens Battlefield, ils sont meilleurs. Puis c'est vraiment dommage parce que c'était un des jeux plus attendus cette année avec Halo que lui, pour le côté du Xbox, ça fonctionne.
Ouais.
Donc, il manque quelque chose que les autres Battlefield avaient. L'immersion est moins là. Puis, c'est vraiment pas. J'ai joué peut-être moi personnellement 6 heures, puis je me suis tanné.
J'ai pas
rejoué, non. J'y ai là, le boîtier devant ma télévision, mais je le mets plus.
Ben, merci Anthony pour cette actualité. Merci de nous avoir écoutés sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom était Pierre-Olivier Nadeau, j'étais accompagné d'Anthony Lajeunesse. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission mercredi même heure. Et on se laisse...
comme ça.
À la semaine prochaine.
D'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître qu'est-ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
OK, attention. 1, 2, 3,
Chiz!
Us.